Les Signes Sauvages, une émission proposée, préparée, présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous. Les Signes Sauvages, Quesaco. Eh bien, c'est assez simple, ma foi. Il s'agit du titre d'un livre de Kenneth White, traduit par son épouse Marie-Claude White, paru aux éditions Le Mot et le Reste en 2013, mais dont la première édition date de 1990, et c'était chez Grasset Fasquelle. Pourquoi Les Signes Sauvages ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai décidé de vous lire in extenso ce récit de voyage de Kenneth White au Japon. Point de départ, Tokyo, la ville tentaculaire. Après quoi, l'auteur part pour le Nord. Il est accompagné de l'ombre tutélaire de Basho, grand poète japonais du XVIIe siècle, initié au Zen, qui fit aussi route vers le Nord. C'est ce grand voyage de Kenneth White vers le Nord que je vous offre tout au long de cet été. Depuis quelque temps, l'idée d'une virée au Japon mûrissait dans mon esprit. Ce serait une sorte de pèlerinage géopoétique, un hommage aux choses du Japon, choses précieuses et précaires, et un voyage haïku dans le sillage de Basho, un récit rêveur de routes et d'îles, un plongeon elliptique dans le vide, bref, un petit livre nippon extravagant, plein d'images et de pensées zigzagantes, écrit dans le style blanc volant, comme disent les peintres. Après cela, me disais-je, je me terrerai dans mon observatoire cosmologique de la côte bretonne pour travailler au prochain cycle et arpenterai les chemins côtés encore peu fréquentés, vêtus de vent, de pluie et de silence. Cet automne-là, je me sentais prêt et avais tracé un itinéraire approximatif. Je prendrais Tokyo comme point de départ et me dirigerais ensuite vers le nord pour atteindre enfin le Hokkaido. Assis dans un café à l'aéroport de Paris par un matin ensoleillé de septembre, j'étais attentif aux sons japonais que j'entendais tout autour de moi, en particulier ceux que proférait une longue fille au visage lunaire, et j'ai laissé quelques souvenirs littéraires du Japon me traverser l'esprit. Le soleil couchant de Dazai, Rugetsu, le professeur de haïku dans la nouvelle de Nagai Kafu, la Sumida, le jeune étudiant de Kawabata qui marchait seul sur la péninsule d'Izu et rencontrait un groupe de danseurs. À les entendre parler d'Oshima, mon cœur s'emplit de poésie. Le sol nippon, littoral et montagne, golfe, baie, promontoire, terre volcanique, convulsée, ravagée, lavée par le vent et la pluie, par les marées et les brouillards, par un jeu vaporeux d'eau, de brume et de soleil. Torrent fougueux, cascades et feuilles rouges. Je voulais m'immerger dans tout cela, dans l'énergie et le rythme et la lumière de tout cela. Et je voulais, si possible, voir les cygnes sauvages venus de Sibérie s'abattre avec leurs cris d'outre-terre sur les lacs du Nord où ils viennent hiverner. Ouais, voilà ce que je voulais. Vol pour Tokyo, porte 17. Première étape, les rues de la mémoire. Traversant le pont en bois au crépuscule, le soir est plein d'échos. Traversant le pont en bois au crépuscule, le soir est plein d'échos. Tokyo rock and roll. Dans la nuit au-dessus de l'Amérique, la petite japonaise, assise à côté de moi, s'est pelotonnée voluptueusement dans le fauteuil et s'est endormie. Peu de temps après, sa tête était appuyée sur mon épaule gauche. J'ai dû somnoler moi aussi. Quand je me suis réveillé, la petite nippone était partie et une voix annonçait que nous commencions la descente sur Tokyo. Hoteru Sendon Kudasai. Après cette phrase lancée au chauffeur de taxi ganté de blanc qui m'a répondu d'un ton efficace Hoteru Sendon Hai, je me suis enfoncé dans le siège aux housses blanches immaculées, les yeux tournés vers la fenêtre, à l'affût de toutes sortes de signes, même si j'ai conscience d'être en quête de quelque chose de bien plus immédiat et de bien plus substantiel que des signes, écoutant distraitement à la radio le laïus d'encouragement d'un aumônier américain d'avant-garde à ses oies et des forces armées. « Apprenez à être vous-même, votre force est en vous-même, c'est là que Dieu l'a placée, Dieu veut que vous soyez vous-même !» Je me disais à moi-même que le moi n'est qu'une métaphore, c'est-à-dire un moyen de se rendre d'un lieu à un autre. En tout cas, là, dehors, c'est Tokyo. Au premier coup d'œil, c'est tout bonnement hideux. Ce n'est pas une cité, Tokyo. C'est une calamité. Aucune ville qui se respecte ne pourrait se permettre un tel pot pourri de style néo-classique, néo-gothique, néo-baroque, néo-moderne, néo-néo, tout cela en briques rouges ou en béton armé, terne, triste, sinistre. Et ça, là-bas, qu'est-ce que c'est? Une pyramide? Ces hordes et ces hordes de citadins, la plus grosse agglomération de la planète. Ces enseignes lumineuses, comme si le cirque culturel cosmopolite avait explosé ici et déversé toutes ces images dans ce non-lieu tentaculaire sur la frontière du Far East. Pourtant, je sais que derrière ces façades criardes, il doit y avoir des ruelles, des jardins tranquilles, des tronçons de vieux canaux, l'autre Japon, sûrement. Deux Américains se présentaient à l'hôtel Sundown en même temps que moi. L'un d'eux était du genre juif new-yorkais nerveux, l'autre un long et lent texan qui n'arrêtait pas de dire à son copain, s'affairant au milieu des valises, des carnets de chèques et des fiches, « Qu'est pas ça, man ?» Au moment où je prenais l'ascenseur pour monter au 12e étage, le nerveux continuait à s'agiter et le long laconique à dire « Qu'est pas ça, man ?» Là-haut, je suis arrivé devant une porte en métal ouvrant sur une chambre minuscule qui avait tout Tokyo clignotant rouge, vert, jaune, violet dans la fenêtre. Quand j'ai ouvert cette fenêtre, un vent de 12e étage venu des Aléoutiennes passa en trombe, se dirigeant vers Kyushu, Manille et d'autres destinations inconnues. Peut-être était-ce l'effet du long vol depuis l'Europe, peut-être l'exiguïté de la chambre ou la vue de Tokyo s'étalant là en bas, toujours est-il que j'ai eu la sensation hautement désagréable que je risquais de tomber carrément dans le vide. Ce n'est qu'après avoir tiré le rideau que je me suis senti un peu plus en sécurité, quoique plus tard ce soir-là j'ai pris la précaution de dormir la tête au pied du lit, et non comme il aurait convenu à la tête qui, elle, se trouvait tout au bord de l'abîme. Après m'être un peu installé, je suis descendu au 11e étage pour manger un morceau. Mais le restaurant avait été réquisitionné ce soir-là par une société qui donnait un banquet. Une table avait été installée devant la porte du restaurant et des cadeaux étaient distribués aux membres de la société au fur et à mesure qu'ils arrivaient. En tant qu'individu non sociétaire, je fus poliment orienté vers le bar d'à côté. J'étais assis dans le bar, parfaitement heureux d'être en vie. Une assiette de saumon, un bol de riz et une bouteille de bière de Sapporo devant moi. Quand la terre a tremblé. Il y avait d'autres gens, tous japonais, dans la lumière rouge et fumeuse du bar, mais ils n'ont pas eu l'air de remarquer ce qui se passait. En tout cas, leurs conversations n'en ont pas été perturbées le moins du monde. J'étais assis le dos à la fenêtre et je n'ai pas pu m'empêcher de m'en écarter un tantinet, me demandant pourquoi diable j'avais abandonné la belle Bretagne bleue pour venir à ce Tokyo de malheur et être englouti dans un tremblement de terre. J'allais mettre quelque temps à m'habituer à de telles secousses et même à y trouver un certain plaisir, mais pas dans des chambres de 12e étage dans une grande ville, même si on m'affirme que les immeubles sont vraiment antisismiques. Après mon repas, je suis parti faire une balade dans le Roppongi du samedi soir. C'est là que j'ai retrouvé la petite japonaise avec qui j'avais dormi dans le Boeing, sauf qu'il y en avait des centaines, des milliers. Elle se déversait par la station de métro de Roppongi. Les petites filles de Tokyo, vêtues de soie et de satin, avec leurs petites bourses et leurs paillettes, venues s'amuser quelques heures de rock hurlant au Capri ou de blues solitaire au Blue Lady ou de rythme funky au Banana Junkie. Quand je suis revenu à l'hôtel, une grande bringue d'Australienne ivre chantant Waltzing Matilda se faisait traîner hors du bar par trois menus japonais et dans l'ascenseur, une fille sanglotait sur l'épaule de son petit ami qui, le regard fixé dans le vide, affichait un air de totale indifférence. Au moment où je me mettais au lit, j'entendis le Texan dire encore une fois dans le couloir « Qu'est pas ça, man ?» Un dimanche au parc d'Ueno. Le lendemain matin, au petit déjeuner, dans le restaurant panoramique, je suis en train d'étudier un plan de Tokyo, me demandant par où je vais commencer pour me mettre au diapason de la ville, quand je tombe sur le nom d'Ueno, qui sonne familièrement à mon oreille à cause de ce haïku de Basho où, dans sa petite maison, il entend les cloches du temps sonner sur la ville et se demande si ce sont les cloches d'Asakusa ou celles d'Ueno. Alors je vais à Ueno, au parc d'Ueno. Et je n'y suis pas seul, ou loin s'en faut. L'endroit est rempli de familles, de joueurs de baseball et de clochards. Au moment où je passe devant un petit groupe de ces nihilistes nippons, l'un d'eux, vrai sac à saké, avec une crinière qui pourrait loger trois corbeaux, me lance d'une voix rauque et gouailleuse « America, des soukas, ok !» Je lui fais un petit salut, style « tant qu'il y aura des hommes » et passe mon chemin. Eh, il y a vraiment beaucoup de clochards au parc d'Oueno. En fait, il semble y avoir autant de clochards rassemblés ici qu'il y a de Bretons à Montparnasse. Et peut-être pour à peu près la même raison. La gare d'Oueno, comme je l'ai appris plus tard, est la gare qui dessert le nord et où arrivent les trains de Sendai, Morioka, Aomori, Iwate, Nagano, Niigata, amenant à la grande ville des gens cherchant du travail et qui, faute d'en trouver, découvrant peut-être que cette vie oisive au parc d'Oueno n'est après tout pas si désagréable, se contentent de rester dans le coin. Alors ils passent leur temps assis là sur les bancs, certains bavards, certains muets, tous les yeux chassieux, assurément pas illuminés. Je marche le long des allées jonchées de feuilles, parmi les arbres et les fontaines, les temples et les sanctuaires, jusqu'au moment où j'arrive devant une statue d'Ernest Fenollosa, cet Américain d'origine espagnole né à Salem, Massachusetts, qui accepta une chaire de philosophie à l'université de Tokyo en 1878 et allait finir sa carrière non seulement comme ministre des Beaux-Arts, mais aussi comme Daijin Sensei, professeur de grands hommes, et dont les carnets allaient changer le cours de la littérature occidentale. Je le salue, lui aussi. Un peu plus loin, je tombe sur le musée national où je passe 2 heures à la section Ainu à admirer les robes en coton brodé, les jambières, les boucles d'oreilles, les colliers, les boîtes à tabac et les couteaux. Il y a quelque chose dans cette culture Ainu qui m'attire beaucoup. Ces fluides motifs blancs sur le tissu bleu foncé, cette relation intime avec les saumons, les ours, les baleines, les oies et les cygnes, avec l'os et la pierre. Il faudra que j'aille jusque là-haut, que j'approfondisse les choses de cette région. Pendant tout ce temps, si j'ai enrichi mon stock d'images et d'informations, je n'ai toujours pas une idée claire de la météorologie mentale du Tokyo d'aujourd'hui. Pour cela, il faut que je me mette en rapport avec un Japonais. À Paris, des amis m'avaient conseillé de rencontrer un jeune écrivain de leur connaissance. Je l'ai rejoint dans un café du quartier d'Asakusa qui, me dit-il, était autrefois le centre culturel de la ville, l'endroit où l'on trouvait les théâtres kabuki ainsi que toutes sortes de restaurants et de bars, parmi lesquels le Kamiya où nous nous étions donné rendez-vous et où des écrivains comme Nagai Kafu et Tanizaki Junichiro se réunissaient devant ce mélange de vermouth, de curaçao, de gin, de vin et de cognac, connu sous le nom de Denki Buran, cognac électrique. Cette ville est une éponge, dit Kenji. Lui-même n'était pas né à Tokyo, mais dans une petite ville du nord, près de Sendai, dans la préfecture de Miyagi. Il était à Tokyo depuis 5 ans. Que pensez-vous du Japon en général ? Je ne l'aime pas, ce Japon d'aujourd'hui. J'aime ce que les Français appellent le japonisme. J'aime vivre dans un pays de l'esprit. En cela, je suis très japonais. Et quels sont les écrivains qui comptent pour vous ? En ce moment, je veux dire. Ah, aucun. Et dans le passé récent, j'ai rencontré M. Kawabata, il avait la tristesse dans l'âme. Mishima aussi, je l'ai rencontré. Il avait de nombreux complexes, et c'était un snob. Je préfère de loin Tanizaki. Pour moi, Tanizaki est numéro 1. Sasame Yuki, un peu de neige. Je suis moi-même, comme M. Dazaï, un peu inhumain. Et les écrivains du passé, Bachot, par exemple. Oh, la poésie est difficile. Elle demande beaucoup de tête, beaucoup de cœur. Bachot va loin, jusque dans le pays froid, le pays de la neige. Personne ne fait ça aujourd'hui. Nous vivons en cage. Et que pensez-vous de Kenzaburo ? Oh, M. Kenzaburo est très occidentalisé. Nous disons que son écriture sent le beurre. Et que devrait sentir aujourd'hui l'écriture japonaise ? Ah, je ne sais pas, peut-être l'awamori ? Ah, c'est quoi ça, l'awamori ? La vodka japonaise. Et vous, écrivez-vous quelque chose en ce moment ? Je suis en train de finir un livre. Et quel est son titre ? Son titre ? Une petite fièvre ne me quitte jamais. Durant les jours suivants, Kenji et moi avons marché fiévreusement à travers Tokyo. Vous avez déjà entendu parler de Denkigai ? C'est l'artère principale du quartier d'Akihabara, et si on la surnomme la rue électrique, c'est parce que c'est un paradis électronique ou un enfer, cela dépend du point de vue. On trouve là des magasins à plusieurs étages où l'on vend de tout, depuis les réfrigérateurs et les climatiseurs au rez-de-chaussée jusqu'aux micro-ordinateurs au dernier étage, en passant par les écrans vidéo bleus, les platines en acier luisant et les grosses enceintes noires. Mais ce n'est pas tout. Derrière ces mammouths, il y a les innombrables boutiques de bric-à-brac Janku Mono, où sont entassés pêle-mêle tous les gadgets électroniques imaginables, avec en plus quelques-uns qui, si vous êtes comme moi, dépassent votre imagination. Tout le quartier est rempli d'un bruit assourdissant et de néons multicolores qui clignotent selon tous les rythmes possibles. C'est le monde de demain, dit Kenji. Eh bien, fuyons-le tant que nous le pouvons. Étant plutôt du genre archaïque, je pensais trouver de quoi mieux satisfaire mes besoins de sensations et d'images à Tsukiji, le marché aux poissons. Un grouillement de vie marine là-bas. Anguilles qui ondulent, crabes qui tâtonnent, toutes sortes de pieuvres qui se tordent, mais les thons surtout, ces corps lisses aux belles courbes encore couverts de givre, fumant dans le soleil du petit matin. La vie d'ailleurs, les gros pêchés dans le Pacifique Sud, les plus petits au large de Cap Town, tous ces corps gras, souple, glissant, luisant, naguère, rapide nageur, allongés là sur le quai, leurs orbites aveugles bouchées avec de la glace grise et les acheteurs éventuels qui font une petite entaille dans leur chair, l'examinent attentivement à la lumière d'une torche électrique. Ah, cette chair rouge, sombre et brillante! Pendant que le crieur, petit bonhomme râblé, une casquette de baseball sur le chef, et sur le point de se faire éclater une veine en tapant du pied sur son estrade comme un gros bébé en colère pendant qu'il fait monter, monter, monter à toute vitesse les enchères. Celle-ci terminée, les poissons sont traînés jusqu'aux étals où le découpage commence, avec d'énormes haches, avec de longs couteaux, avec des scies électriques, afin que tout soit prêt pour les restaurateurs de Tokyo qui feront bientôt leur tournée. Seules les têtes des poissons sont laissées sur le quai, éparpillées au milieu des boîtes en polystyrène. Ces têtes de thon, on dirait qu'elles aimeraient prononcer un dernier mot. Ces têtes de thon, on dirait qu'elles aimeraient prononcer un dernier mot. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine pour la deuxième étape sur la route des cygnes sauvages. En attendant, n'hésitez surtout pas à commander ce livre de Kenneth White, Les cygnes sauvages, aux éditions Le Mot et le Reste. Excellente fin de journée à toutes et à tous à l'écoute, bien évidemment, des programmes de Radio Grand Ciel.